saine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Dunis.
Bonjour, c'est toujours André Dunis. Et comme j'avais fait sur la mondialisation, j'ai un peu oublié de vous donner les quatre piliers du consensus de Washington, adopté par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'OCDE. L'OCDE, c'est les 35 pays les plus industrialisés. Donc, les quatre piliers du consensus de Washington, c'est en 89, hein, c'est un professeur, Ben Williamson, un professeur à l'université de Berkeley aux USA. Il avait formulé les quatre piliers adoptés par ces gens de la Banque mondiale, FMI, OCDE, tous gens non élus. Hein. C'est essentiellement une multinationale qui gère ça. C'était premièrement la libéralisation, hein, que les capitaux puissent aller venir, que les services soient privatisés, qu'il y ait des brevets et des propriétés intellectuelles, bref, et que l'enseignement aussi soit privatisé. Bon, on y va tout doucement. Restrictions budgétaires, bien sûr. Hein, il ne s'agit pas de faire des budgets pour développer des services publics puisqu'on veut les privatiser juteusement. Et stabilisation macroéconomique. Voilà. Alors, les ingrédients de ces programmes, c'est la suppression des subventions du contrôle des prix. Terminé. La réduction des dépenses budgétaires de protection sociale et d'éducation. La baisse des prélèvements fiscaux sur les entreprises, le capital et les revenus. Maintenant, on ne baisse plus les prélèvements. On donne des subventions aux entreprises. Alors, on a, si vous voulez, on va prendre quelques points et puis voir à peu près son pendant, sa traduction, si vous voulez, en langage clair. La discipline budgétaire, eh ben, le budget de l'État ajustera afin que prix en augmentant ne ramène au plus bas le gain réel de l'épargnant. C'est la version René Passet qui a fait un très bon bouquin sur la mondialisation dont je me suis inspiré. Hein, René Passet, c'est un prof d'économie et qui est aussi membre d'ATTAC. Donc la discipline budgétaire, c'est surtout pas d'inflation, parce que l'inflation ruine l'épargnant qui a du pognon, puisqu'il a un bas de laine de milliards, et si jamais l'inflation c'est 10%, il perd 10% sur ses milliards. Vous comprenez qu'ils veulent pas d'inflation, ces messieurs dames, justement pour que il n'ait pas de problème de grignotage de leur épargne. L'acheminement des dépenses publiques, point numéro 2, dans des directions qui promettent aussi bien une croissance économique qu'une répartition des revenus. Eh ben, budget social, tu réduiras au détriment de l'indigent. Hein, les pauvres, finalement, n'ont finalement de propriété que les services publics. Hein. Le service public, c'est l'assurance du pauvre. C'est la propriété de gens qui n'ont aucune propriété. C'est la gratuité pour des gens qui n'ont pas de pognon. C'est la possibilité de se soigner, de se transporter, etc. Tout ça est en train d'être réalisé à toute allure par la Macronie, dès lors que c'était dans le programme de l'OCDE, de la Banque mondiale, dès les années 90, hein, dès la chute de la Russie, qui faisait un petit peu peur, hein, au moment où on se disait quand même on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait avec la puissance nucléaire de la Russie, et puis surtout, sa puissance, on va pas dire idéologique, puisqu'elle était discréditée, mais aussi le fait qu'elle soutenait des partis, des machins, bon, bref. Ça faisait un contrepoids, disons. Maintenant, après les années 90, l'Organisme mondial du commerce à Marrakech a voté la privatisation de tous les services, dont l'enseignement. Donc des réformes fiscales comportant des taux d'imposition maximum peu élevés pour les gens à revenus élevés. Et ben voilà, vous le voyez bien. Quand vous avez eu la France insoumise proposer 14 tranches, alors qu'il n'y en a maintenant que 5 ou 4, 6, je ne sais plus combien, c'est relever les tranches à proportion des revenus. Ça ne suffira pas pour faire moins d'inégalités, mais ça permettrait quand même de ponctionner les plus hauts revenus. Hein, je ne vous fais pas un dessin, l'ancien PDG de Carrefour, il s'en va avec 7 milliards, ça craint un petit peu, quoi. Avec 7 millions. Voilà, donc les impôts des riches abaissera et réduira sensiblement, celui des pauvres augmentera pour compenser le précédent. Une libéralisation des marchés financiers, l'autre consensus, du capital libérera sans hésiter le mouvement afin que là où il lui plaira, il entre et sorte à tout moment. Voilà, on voit qu'on veut pas laisser entrer, sortir et circuler les migrants de la planète. Par contre, pour le capital, c'est simple, hein, c'est par ordinateur, un milliardième de seconde, je t'envoie plusieurs milliards à l'autre bout de la planète pour acheter du blé que je revends 2 minutes après, en faisant des dizaines de milliers d'euros de bénéfices en 1 minute ou des fois en quelques secondes. La création d'un cours du change stable et compétitif. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement, et ce Dieu-là te comblera, s'il a pour nom argent. Voilà la philosophie, c'est l'argent. Là, d'ailleurs, vous voyez que ça a imprégné tous les esprits. Hein. Citez-moi une seule succession, les gens s'engueulent pas pour du pognon, ou ils tueraient presque leur grand-mère pour avoir l'héritage plutôt. Bon, ça est devenu dingue. Hein. Ceci dit, plein de gens sont dans la merde, je sais bien, mais c'est pas une raison pour être inhumain à l'égard des immigrés ou de ses proches. La libéralisation du commerce, eh ben, au seul marché, tu permettras entre demandeurs et marchands d'effectuer au plus exact l'indispensable ajustement. L'abolition des barrières à l'entrée sur le marché, eh ben, ça veut dire de l'étranger attirera l'épargne et l'investissement, et à leur flot d'argent, tu ouvriras tes entreprises largement. Voyez, c'est tout simple, hein, le grand aéroport de Lyon, ça y est, a été vendu pour partie aux Chinois. Et voilà, les privatisations, ben oui, c'est ça. Secteur public, tu braderas sans hésiter au plus offrant et privatiseras tout ce qui jute grassement. Ben, on privatisera pas les voies SNCF qui sont longues à entretenir. On va reprendre la dette pour les infrastructures, mais on privatisera les lignes les plus rentables de TGV ou autres. C'est pas beau la vie, et comme ça, les entreprises étrangères feront du profit. Et comme vous savez, en Angleterre, ça a quand même fait un paquet de morts. Alors, les chiffres varient, je n'ai pas les chiffres très exacts. Dernièrement, j'ai vu que les derniers accidents avaient fait une cinquantaine de morts en Angleterre. On dit qu'au total, c'est 400 morts de déraillement ou d'insuffisance d'entretien des voies. Et ce qui est bizarre, c'est que 30 ans après, l'Angleterre est en train de dire qu'il faut renationaliser son chemin de fer. Alors ça, c'est le comble du comble dans le pays le plus libéral, ou presque le plus libéral du monde après les États-Unis. On a besoin de renationaliser le chemin de fer. Entre-temps, les sociétés privées, il y en a une trentaine en Angleterre, ont fait du jus et du gras sur des transports qui sont partis en déshérence. Hein. C'est innommable, les transports en Angleterre. Et maintenant, donc, l'État arrive derrière avec notre argent, puisque c'est le nôtre, pour remettre en état tout ça et racheter du matériel roulant et réparer les voies afin que ça roule, que ça, les trains arrivent à l'heure. 90% des trains anglais n'arrivent pas à l'heure. Ben, maintenant, on va les faire arriver à l'heure à cause de milliards d'argent public. Mais entre-temps, c'est qui ? C'est des actionnaires privés qui s'en ont mis plein les poches. Ils ont juté sur la dégradation, c'est-à-dire le non-entretien du réseau. Donc les privatisations, c'est très bien. C'est ce qu'on a appliqué aux pays du Sud, hein, quand ils ont fait des dettes à taux variable. Ils ont emprunté 1% au temps du dollar massif. Et puis ensuite, on leur a dit, mais attendez, là, ça augmente régulièrement la dette. Maintenant, on en est à 20%, 22%, 23%. Donc privatisez, c'est-à-dire vendez-nous les terres agricoles, vendez-nous la cacahuète, vendez-nous le bois des îles, vendez-nous vos richesses, laissez-nous les exploiter tranquillement. Et comme ça, vous pourrez rembourser une dette qui, de toute façon, est irremboursable. Quand on regarde la dette grecque, elle sera jamais remboursée. La dette française sera jamais remboursée. La dette allemande sera jamais remboursée. La dette italienne sera jamais remboursée parce que cumulée, c'est énorme. C'est si énorme que, beaucoup de gens se disent que ça va cracher. Hein. Ça va d'autant plus cracher, ce système de la mondialisation, que, si vous le savez, hein, l'orgie de création frauduleuse de la monnaie, hein, puisque maintenant, vous savez, c'est les banques qui créent la monnaie. Hein. Quand vous empruntez 100 euros dans une banque, elle crée 1000 euros de monnaie. Eh ben, la création frauduleuse de monnaie virtuelle fictive qui se poursuit à grande allure depuis le crash de 2008, avec les produits dérivés, avec les crédits défauts swaps, les CDS, qui permettent aux banques de ne plus assumer le risque de crédit en privatisant les profits, en socialisant les pertes. Eh bien, ces produits dérivés ne cessent de croître. Alors, je vous donne juste le chiffre pour terminer en beauté pendant l'été. 57 000 milliards de dollars de 2007 à 2014 qui s'ajoutent à ce qui existait déjà. Donc, vous voyez que on est dans une orgie véritablement de création d'argent fictif qui ne correspond pas à la valeur de l'économie réelle. Hein. Donc le volume de des contrats de ce genre est reparti à la hausse, au point que les marchés financiers internationaux sont passés de 10 000 milliards de dollars en 1986, tenez-vous bien, à 700 000 milliards de dollars fin 2013. Soit 10 fois le PIB de la planète. En clair, les transactions financières fictives où on crée de la monnaie, où on fait des prêts, où on fabrique des produits dérivés, sur de l'argent qui n'a pas de contrepartie réelle, qui ne correspond pas à son poids de tomates, d'acier, d'aluminium, de moto, de voiture ou de choses de contrepartie réelle, encore moins de l'or, hein. Eh bien, ça totalise au total, tous ces contrats et tout cet argent totalise 220 000 milliards de dollars de contrats sur produits dérivés. Donc, en clair, c'est-à-dire, là, on est très mal barré, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir le crash. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que Trump, j'ai lu pas mal d'économistes qui disent que Trump s'agite beaucoup parce qu'il sait que les 9 indicateurs de l'économie américaine, les plus fondamentaux, sont dans le rouge. C'est-à-dire c'est une économie qui va s'effondrer. C'est-à-dire que les ménages ont endettement de 30 à 40 ans. C'est parmi les pays du monde où les particuliers sont les plus endettés. Les entreprises sont énormément endettées. Et l'État américain s'en est sorti en faisant du dollar la monnaie d'échange de toutes les valeurs sur la planète, concurrencée désormais par le yuan. Quand on regarde bien ce qui se passe, eh bien, on a des indices, la part des salaires dans l'économie, dans le PIB national qui dégringole. On a ses dettes, on a la balance commerciale avec les Allemands et avec la Chine qui est extrêmement déficitaire, la chute des investissements étrangers. Voilà, dans tous ces scénarios-là, on a la possibilité d'un effondrement de l'économie américaine. Bah, par contre-coup, excusez-moi, mais comme nous dépendons à 40% de l'économie américaine, je crains que nous effondrions aussi et que la monnaie se fasse rare. Dans ce cas-là, rien ne vaut de se faire des fermes collectives, rien ne vaut de se faire à manger localement, non pas comme solution survivaliste, individuelle, libérale, capitaliste, hein, j'ai des sous, j'achète une ferme, je paye quelqu'un pour faire des cochons et des vaches et des couvées, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de s'organiser localement en faisant de la démocratie directe, en prenant le pouvoir de nos communes, de nos territoires, en lien les uns avec les autres, même au niveau de la région. On peut bien s'échanger des pommes à 50 km, ça ne tuera pas le climat. Voilà, surtout si on prend là, avec l'énergie, la solution, comme je vous disais, de faire un peu d'énergie électrique et de chauffage local, en réseau de chaleur local, notamment avec les méthaniseurs municipaux, qui n'auront pas une grosse puissance. Hein. Avec ça, on ne fera pas du tout d'air conditionné dans les grandes surfaces ou les entreprises. Hein. On servira que les HLM, que la mairie et les services publics, que les habitants pauvres. Et si on fait tourner le gaz de ces méthaniseurs dans nos voitures ou surtout des minibus, eh bien, je vous le rappelle que même le GPL, qui est un gaz fossile, hein, qui est au-dessus des nappes de pétrole ou qui est des fois pris dans des poches, ça fait zéro azote, ça fait zéro soufre, donc zéro NO2, zéro soufre, ça fait zéro benzène, ça fait zéro plomb, ça fait très peu de particules fines, ça fait 10 fois moins d'oxyde d'azote que l'essence, 30 fois moins d'oxyde d'azote que le diesel et 60 fois moins de particules ou 100 fois moins de particules fines que le diesel. Voilà, eh ben, il y a des pays, en Autriche par exemple, où il y a des patelins qui avec 50 petits patelins, hein, avec 50 petits biodigesteurs, ont une autonomie complète avec une petite usine de liquéfaction. Bon, ces solutions existent, elles sont éprouvées, on peut prendre un car et aller visiter Güssing en Autriche. Je vous garantis que vous revenez sur les rotules parce que les gens se sont enrichis. La ville la plus pauvre d'Autriche est devenue la plus riche en 10 ans, 12 ans, parce qu'elle s'est équipée au lieu de faire des ronds-points, dont le dernier à Novalaise est hallucinant et cher, un rond-point c'est 400 000 euros, pourquoi ne pas, à 400 000 on peut s'acheter un biométhaniseur qui rapportera au bout de 5 ans d'amortissement pas mal d'argent. Voilà, sur toutes ces solutions, on a premièrement s'organiser au plan local en démocratie directe, deuxièmement prendre le pouvoir d'État comme ont tenté de le faire les forces de gauche aux dernières élections battues par le macronisme, hein. Évidemment, hein, 65% des gens ont voté Macron par crainte de voter Le Pen, hein. Je rappelle que Macron, il n'a eu qu'une voix sur 6 de pure, disons, sympathie pour le macronisme, c'est-à-dire un libéralisme à tout craint. Donc, première solution, s'organiser sur le plan local. Il y a les municipales dans 2 ans, prenons donc le pouvoir et faisons une élection sans candidat. Deuxièmement, ben, il y a le pouvoir d'État. Et puis, troisièmement, il y a toutes ces alternatives qui fleurissent sur les territoires et qu'on peut mettre en réseau, en synergie, pour que ça bouge. Voilà, il y avait récemment, et je termine là-dessus, un week-end sur la permaculture à travers la construction en pisé. Moi, j'aime bien paille-bois, eau, terre, paille-bois, terre, eau, technique grèbe, mais qui est très peu chère, hein, puisqu'on peut faire un immeuble de 7 étages sans acier et sans moellons. Ça existe en France. On peut construire une maison avec les copains, hein, bien sûr, avec participation, hein, pour 700 euros plomberie installée le mètre carré. C'est-à-dire pour 70 000 euros, vous avez une maison de 100 mètres carrés. Voilà, on peut faire moins avec des bonnes yourtes. Maintenant, il y a des yourtes de 80 mètres carrés, très peu chères. Voilà, là, c'était construction en pisé. C'est très intéressant, la construction en pisé, comme il faisait à l'ancienne, parce que ça a beaucoup d'inertie, c'est perspirant, c'est sain, et c'est un matériau local et que tout le monde peut utiliser. Voilà, c'est vrai qu'il y a moins de paille en chartreuse qu'il y a de possibilités de pisé. Et donc, j'essaierai d'inviter Al Humosser de Velane, ainsi que les fermes dont je vous ai parlé, de la bande et celle de Saint-Franc, ferme collective, ainsi que quelques maraîchers, pour parler politique de territoire, vue du côté de ceux qui produisent des alternatives. Et ben voilà. Et appelez-le, critiquez-le, c'est André, c'est au 06 75 80 05 79. Rolling.
Entre le marché planétaire et globalisé et les myriades de mouvements identitaires qui naissent sur ses marges, il existe un grand trou noir, et ce trou noir, c'est la volonté générale, la nation, l'État, les valeurs, la morale publique, bref, la société humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a perdu cet élan de démocratie populaire, on peut dire, où des centaines de milliers de travailleurs se mettaient en grève, comme en mai 68, ou en 47, ou en 95, pour défendre leurs droits, dans la mesure où ils sentent que quelque chose d'un peu fatal leur est tombé dessus, qui est la grande concurrence mondiale installée au niveau de la planète. Voilà. Donc, les journalistes se font assassiner, ou bien se font acheter, ou bien, pour leur carrière, il y a intérêt qu'ils ne dévoilent pas trop ces mécanismes. Les cabinets d'avocats se spécialisent dans l'évasion fiscale, et je rappelle que plus de 200 milliards d'euros des riches français disparaissent de notre pays, échappent à l'impôt, parce qu'ils sont planqués par évasion fiscale dans des pays à législation douce, quoi, comme les îles Caïmans, où on paye aucune taxe, aucun impôt. Donc on place son argent là, et par des sociétés écrans, on arrive à perdre votre trace. Voilà. Le crime organisé dépend aussi de cette mondialisation, puisque l'argent sale des mafias se recycle avec l'argent, je ne sais pas s'il est propre, des multinationales, de sorte que le capitalisme rencontre l'essence du crime organisé, mais le capitalisme est lui-même un crime organisé contre la planète et contre les humains. Donc, si nous n'en sortons pas, je crains que nous ne sortions pas de la menace que ce n'est pas une menace désormais, c'est la menace de l'emballement climatique qui a peut-être commencé et qui risque de nous amener à une catastrophe épouvantable, puisque aussi bien National Geographic que le GIEC avancent des chiffres qui font froid dans le dos, enfin froid et chaud, puisque la France pourrait connaître des températures de 50-55 degrés dès les années 2070. C'est-à-dire que nos enfants seront devenus vieux, d'accord, mais ce sera un pays inhabitable, hein, à 50-55 degrés pendant 4-5 mois. Bon, c'est les températures du Kenya, c'est-à-dire c'est le désert, quoi, ou la savane. Bon, voilà, donc cette mondialisation a abouti à une course effrénée à l'industrie du pétrole pour pouvoir faire tourner tout ça. Alors vous allez me dire, mais quoi tourner tout ça? Eh bien, il faut 100 000 bateaux pour transporter toutes ces marchandises qui viennent d'ailleurs. Puis-je vous donner un chiffre? Vous le trouvez sur le site de mon association, lacen.org. Vous allez tout trouver ça. Les 15 plus puissants porte-containers qui bouffent plus de 10 à 12 000 tonnes de fuel lourd, extrêmement polluant, qui fait de l'acide sulfurique, enfin sulfureux, qui fait du nitrate d'azote, enfin de l'oxyde d'azote, qui fait de la suie, qui fait de la dioxine, qui fait d'énormes polluants. Donc par bateau, hein, 12 000 tonnes. Des bateaux qui font 500 000, 600 000, 700 000, 800 000 tonnes. Comme les grosses aussi bateaux de croisière, où vous avez maintenant des bateaux de croisière avec 8000 personnes embarquées, hein, 1500 ou 2000 personnes d'équipage, de soins et de cuisine. Et puis tout le reste, c'est des touristes, hein. Ça s'est extrêmement démocratisé, soi-disant. Eh bien, les 15 premiers porte-containers sur les 100 000 bateaux qu'il y a, qui sillonnent les mers, font plus de pollution que les 780 millions de voitures actuellement existantes sur la planète. Ce qui, en parenthèse, sur 7 milliards d'habitants, montre que la voiture n'est qu'un privilège de pays très riches qui ont exploité les autres pour rouler en bagnole alors que les autres roulent encore avec des ânes ou quelques mobilettes. Ou à pied. Vous rendez compte? 15 plus puissants containers, porte-containers, polluent plus que nos presque 800 millions d'automobiles. Alors, je vous pose la question. On va vous embêter, vous, de ne pas pénétrer dans les villes parce que vous avez une vieille caisse diesel que vous avez eu du mal à acheter d'occasion pour aller au boulot. Vous vous rendez compte que pendant que Hulot et quelques autres vont faire l'écologie du riche, c'est-à-dire culpabiliser le pauvre pollueur qui ouvre son frigo trop longtemps, qui pisse en tirant la chasse, qui... voilà, se brosse les dents, laissant couler le robinet, c'est ça qu'a fait Hulot pendant 20-30 ans. C'est-à-dire attirer l'attention sur les individus pollueurs, individualiser la pollution, pour déresponsabiliser les multinationales. C'est l'effet de l'heure. On met le projecteur sur le pauvre qui se brosse les dents, laissant couler le robinet. C'est pas bien, hein, de laisser couler le robinet, on est d'accord. Mais en gros, quand on compare ce crime climatique au crime que représente 15 géants porte-containers avec 12 000 tonnes de fuel lourd dans leur cale, consommant je ne sais plus combien de tonnes à l'heure, 10, 12 tonnes à l'heure, pour faire l'aller-retour Shanghai, Le Havre ou Amsterdam, et que ces 15 porte-containers consomment plus que nos 800 millions de bagnoles qui, elles, tuent 6-7 millions de personnes prématurément à cause des suies, des fumées, du nitrate, de l'oxyde nitrique, de l'oxyde de soufre, de l'oxyde de carbone, que ça répand dans l'air et que ça rend irrespirable, eh bien, excusez-moi, messieurs, mesdames, mais vous rendez vite compte qu'il faut faire une écologie anticapitaliste, c'est-à-dire une écologie qui dise « on sort du système ». Et voilà que se pose la question des biens communs, et ce serait bien que partout dans la Chartreuse ou ailleurs, il y ait des cafés des biens communs. J'ai essayé d'en lancer sur le pays d'Aigbelette, on en a fait cinq séances, une sur la démocratie et une sur l'eau du lac d'Aigbelette qui est buvable pour combien de temps encore avec les 7 lotissements qui sont en cours. C'est la curée, hein, sur Aigbelette. Les riches veulent absolument leur maison qui donne sur le lac, et les élus offrent aux riches des terrains constructibles par le PLU, le plan local d'urbanisme. En fait, on rend les propriétaires extrêmement riches s'ils ont un terrain qui peut être construit. Le terrain, c'est 0,5 euros quand c'est de la terre agricole qu'on brade ainsi. Et donc, voilà un nouveau effet du capitalisme en France, c'est qu'il y a un département tous les 6 à 7 ans qui disparaît sous le béton et le bitume et qui pourrait nourrir la France, qui actuellement n'est plus autosuffisante sur le plan alimentaire. C'est catastrophique, puisque notre nourriture fait 3000 km, un yaourt ça fait 3000 km, une tomate ça fait 900 km en moyenne, pour venir nous nourrir. Alors que nous avions le pays le mieux disposé du point de vue climatique, relief et terre, et bonne terre, pour faire de la bonne agriculture locale, bio de préférence, naturellement, ou naturelle, eh bien voilà que nous importons une bonne partie de notre nourriture et que nous détruisons pour faire des lotissements, des grandes surfaces, des routes, des autoroutes. Nous détruisons un département français de bonne terre tous les 6 ou 7 ans, soit un terrain de football toutes les 5 minutes. Et comment ça marche? Eh bien, nos élus déclarent en constructible des terrains qui appartiennent à des propriétaires ou à des paysans. Les terrains agricoles, c'est 0,5 euros le mètre carré. Je pense qu'à Saint-Laurent, c'est dans ces eaux-là, de 0,3 à 1 euro le mètre carré. Si vous le rendez constructible, ben je pense par exemple à Lépin où c'est 150 euros le mètre carré, je pense à la banlieue de Valence, c'est 250 euros le mètre carré, mais un terrain qui fait 1 hectare, c'est-à-dire 10 000 mètres carrés, c'est 5 000 euros en terre agricole. C'est déjà cher pour un petit jeune qui veut s'installer et faire de l'agriculture sur plusieurs hectares. Mais si jamais le conseil municipal le déclare au PLU zone constructible, soi-disant pour l'attractivité du territoire, pour faire un nouveau lotissement, pour remplir l'école, alors qu'on peut très bien construire à l'intérieur du village, dans des dents creuses, et en faisant avec la filière bois, de la paille et du bois, les meilleurs isolants étant la paille, le meilleur pour la construction étant le bois, et en plus ça valorise le territoire et tout ça. Et puis si les terres agricoles, si on fait la cantine bio, ça crée beaucoup d'emplois, si on fait des petites poulettes bio, ça fait beaucoup d'emplois, si on fait du petit lapin, ça fait beaucoup d'emplois, c'est sûr que c'est pas des emplois à 5000 euros, mais ça permet à une population de rester sur place, de vivre sans détruire le territoire. Eh bien, à l'inverse de tout ça, nos élus, au nom de l'attractivité de notre belle Chartreuse, de notre beau lac, de notre beau pont de Beauvoisin, va, en quelque sorte, déclarer ses terres en constructibles. Eh bien, ça passe pour l'hectare, donc, de 5000 euros à, eh bien, si c'est 100 euros comme ici, eh bien, c'est 200 fois plus. 200 fois 5000, eh bien, ça fait 1 million d'euros. Eh bien, je vais vous dire, les héritiers sont contents. Vous avez un hectare, il passe en constructible, c'est 1 million d'euros. C'est de 5 000 à 1 million d'euros. C'est catastrophique ce qui se passe, la législation en matière de constructibilité. On devrait systématiquement, quand on est à un conseil municipal, déclarer en zone agricole protégée tout le territoire, qu'on n'y fasse plus de ronds-points à la con, parce qu'en France, on a fait beaucoup de ronds-points avec l'argent que l'État donnait aux communes, comme on voulait pas perdre cet argent et qu'on n'avait pas eu trop d'idées, on se dit, bah tiens, on va faire un rond-point. Un rond-point, c'est entre 300 000, 700 000. Dans mon ex-patelin, dans la Drôme, on a fait un rond-point d'1 800 000 à Guy-Rengrange. 1 800 000 à un rond-point en l'entrée de Guy-Rengrange à la sortie du Pont Bleu. Vous vous rendez compte? 1 800 000 pour faire un rond-point complètement inutile, mais complètement inutile. Voilà, tout ça pour éponger des crédits, dotations de l'État d'ailleurs, qui sont en train d'être supprimés et qui appauvrissent les communes. Au lieu de tout ça, que les communes rachètent des terres et fassent des cantines bio à 100% comme à Moins-Sartoul, là-bas, le mètre carré est à 400 euros. Et bien, qu'est-ce que ça fait la commune? Elle a préempté des terrains et elle les a stockés, et elle les a conservés et elle a installé des serres et de la production maraîchère bio, ce qui fait que sa cantine est à 1,86 € bio 100%. Aujourd'hui, je rappelle, les cantines sont à 6% en France de bio, ce qui est lamentable. Et ces cantines, ça quand même la santé de nos enfants, dont sont responsables les élus régionaux, les élus municipaux et les élus nationaux. C'est la santé de nos enfants qui est en cause. Hein, je rappelle que 40% de nos enfants ont des maladies allergiques. C'est hallucinant. 4 enfants sur 10 allergiques. 1 enfant sur 60 naît autiste en France. C'était 1 sur 12 000 il y a 50 ans. 1 enfant sur 60 naît autiste, empoisonné par le mercure, le mercure peut-être de certaines vaccinations, empoisonné par les pesticides, par le Roundup, par la chimie qui est partout présente dans les pommes, 37 traitements pour les pommes, 38 traitements pour les abricots. On mange la mort. Parce que l'agro-industrie, l'agrochimie, la chimie, les banques, les grands capitalistes gèrent l'ensemble de notre alimentation, de notre logement, gèrent notre vie. Nous sommes entre les mains des banques, nous sommes entre les mains des grands industriels et, vous avez compris, des grandes multinationales.
Vous avez des messages ?
Hey, salut Gaëtan ! Dis donc, pour demain soir, on se prend pas la tête. Tu prends des assiettes en carton, des gobelets en plastique, et pour les couverts, même chose. Mais prends-en beaucoup, hein, parce que ça casse facilement, ok ? Allez, ciao, ciao, et à demain. Et n'oublie pas les nappes en papier.
C'est tellement pratique, c'est tellement pratique. Ça simplifie la vie, c'est diablement intelligent. Les gobelets en plastique, les assiettes en carton, pour les réunions, les pique-niques, ou même pour le réveillon. Plus besoin de faire la vaisselle, tu baignes tout à la poubelle, tu jettes la nappe en papier, faut pas se laisser emmerder. C'est tellement pratique, c'est tellement pratique, ça simplifie la vie, c'est diablement intelligent. Les pâtes feuilletées, pré-étalées sur leur papier sulfurisé, les pâtes à gâteau tout préparées, t'as plus qu'à enfourner. Plus besoin de beurre, de farine, de salir sa belle cuisine. Envoyez valser le bouquin de recettes, les petits secrets de mamie Paulette. C'est tellement pratique, c'est tellement pratique, ça simplifie la vie, c'est diablement intelligent. Des petits biscuits pour le 4 heures, dans leur petit sachet fraîcheur, compote à boire, suremballé, croquer une poire trop compliquée, des cacahuètes décortiquées. Et pourquoi pas pré-mâcher des cornets de glace motorisés. La boule qui tourne, c'est vraiment cool. C'est tellement fantastique. C'est tellement fantastique. Ça rend joli la vie. Oh oui, tellement joli. Bien sûr, c'est dramatique. Tous nos plastiques, bien sûr, c'est dramatique. Mais bon, c'est tellement pratique, c'est tellement pratique, ça simplifie la vie, c'est diablement intelligent. C'est tellement pratique, c'est tellement pratique. Les gobelets en plastique, les assiettes en carton. Tant pis pour les poissons, j'en mets dans le bocal à la maison. Tant pis pour les poissons, j'en ai dans le bocal à la maison. Tant pis pour les poissons, j'en ai dans le bocal à la maison. Tant pis pour les poissons, j'en ai dans le bocal à la maison.
Voilà, c'était un peu d'éducation populaire. Je pense que vous n'êtes pas endormi, mais si vous êtes endormi, téléphonez-lui et insultez-le gaillardement au 06 75 80 05 79, 06 75 80 05 119. J'essaye d'assortir chaque fois une dénonciation de système à des alternatives de démondialisation. Hein. Il faut qu'on reprenne le pouvoir sur notre monnaie, qu'on démondialise, c'est-à-dire qu'on mette des barrières douanières comme le fait Trump, excusez-moi, hein, je suis anti-Trump au possible, mais que nos pays reprennent l'autonomie financière d'abord de créer leur monnaie comme avant, donc de pouvoir ensuite emprunter à eux-mêmes, à leur Banque de France, à 0%. Certains disent qu'on peut emprunter à la BCE Europe qui prête à 0% aux banques pour faire des fabuleux profits et les sauver du désastre après la crise de 2008. D'ailleurs, une nouvelle crise se prépare gravissime avec ce qui se passe avec la Banca Italia et la Deutsche Bank qui sont au bord de la faillite. Et l'Italie, comme elle change de système et veut se tirer de l'Europe, je vous raconte que ça va être très très lourd. Quant à Trump, lui, il veut ce qu'il a toujours fait les États-Unis d'Amérique et la principale puissance néfaste du monde. Pourquoi ? Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est surtout les États-Unis des multinationales d'Amérique. C'est-à-dire que la puissance américaine est là pour défendre leurs multinationales. Donc, voilà, il dit que c'est l'acier et l'aluminium, c'est pour protéger son industrie militaire. En réalité, c'est pour protéger ses multinationales américaines. Même si certaines banques risquent d'y perdre des plumes, l'essentiel du capitalisme américain a été toujours de se battre pour l'hégémonie des multinationales américaines, à coups de canon, en bombardant la Barbade, en envahissant tel ou tel pays, en bombardant l'Irak pour récupérer son pétrole d'une façon éhontée, en liquidant la Libye par la France interposée pour pouvoir pomper son pétrole, en essayant de récupérer la Syrie pour faire passer les pipelines, en démolissant l'Afghanistan pour y faire passer des pipelines. Bref, c'est la principale puissance qui a fait 4 millions d'Arabes tués ces quelques dernières années et qui en a fait des centaines de millions. D'ailleurs, les États-Unis sont nés sur le massacre, alors personne ne sait dire exactement les chiffres. Entre 8 et 50 millions d'Indiens d'Amérique ont été démolis par ces exilés venant d'Europe ou d'Irlande, une bonne partie de repris de justice, bien sûr, hein, de délinquants, une partie de crève-la-faim, qui ont vu dans les espaces du Nouveau Monde l'occasion de reconstruire leur vie, mais sur le dos de ceux qui y étaient déjà. Donc c'est une puissance qu'on dit impériale ou impérialiste, qui est née sur la colonisation et la destruction des peuples autochtones, et qui maintenant décide de reprendre en main son économie au sens de « moi d'abord, America first », moi d'abord, et ça risque de mener à de belles guerres, puisque ce nationalisme capitaliste effréné va engendrer des concurrences effrénées, du chômage chez nous, parce que bon, si on ne peut plus vendre notre aluminium, eh ben, ça fera du chômage chez nous. Voilà. À cela, j'oppose une démondialisation heureuse, qui serait vraiment heureuse, c'est-à-dire on reprend pouvoir sur la monnaie, on reprend pouvoir sur nos frontières, on reprend pouvoir de gérer les affaires internationales d'une toute autre façon. Et c'est là-dessus que je voulais terminer, chers amis, c'est avec l'ONU. Alors beaucoup de gens me disent « oui, mais l'ONU, ça ne sert plus à rien ». Ben oui, parce que qu'est-ce qu'ont fait les capitalistes ? Ils ont marginalisé l'ONU par l'intermédiaire des USA, qui est leur meilleure arme, afin qu'il n'y ait pas de règles et de lois. Avant, l'ONU régulait aussi le commerce mondial. Je rappelle que l'ONU fixait un prix plancher du café qui était 4 fois plus élevé que maintenant, ce qui permettait aux paysans d'Amérique latine de vivre, sinon décemment, du moins mieux qu'aujourd'hui. Or, avec la dérégulation du prix du café, les multinationales ont choisi de faire le café au Vietnam ou dans d'autres endroits. Et donc, ça a fait 40 millions de chômeurs de plus en Amérique latine. Voilà, c'est comme ça que ça marche, la mondialisation. Et du coup, il se passe quelque chose de très intéressant à l'ONU, dont j'aimerais vous entretenir, c'est-à-dire comment l'ONU est en train de réfléchir à mettre des lois qui brideraient un petit peu ces multinationales dont je viens de vous faire un tableau, qui gèrent la planète et dont les États sont plus que les vassaux, voire même les auxiliaires zélés, voire quelquefois même pire, les militaires qui vont au Niger intervenir. En fait, c'est pour qu'on puisse continuer de piquer l'uranium pour faire tourner nos centrales nucléaires, il faut être clair. Alors, je cherche le papier sur la table qui correspond, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, là aussi, parce que vous allez me taper, sinon, je voudrais voir que l'ONU est en train de réfléchir avec une commission. Ça a d'abord été l'Équateur qui a proposé cela, bravo l'Équateur, pour que l'ONU se mette à, édicter des règles du commerce international qui ne sont pas édictées par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est entièrement capitaliste, qui a dicté des règles dites du libre du libre commerce, c'est-à-dire où la déréglementation, dérégulation se fait à l'échelle de la planète, alors qu'on pourrait fixer des règles beaucoup plus contraignantes à l'égard de l'environnement. On n'a pas le droit de rendre l'air irrespirable, l'eau imbuvable, les légumes cancérigènes, etc., etc. Voilà, il y a ce qu'on peut appeler des alternatives au niveau mondial. Moi, je parle pas mal des alternatives au niveau local. Alors, une alternative qui semble se dessiner au niveau mondial, elle est liée bien sûr aux toutes balades, à toutes les bagarres de la coalition climat, hein, où il y a une cinquantaine d'organisations de la société civile française, dont ceux de Alternativa, d'ATTAC, et surtout des Amis de la Terre, qui, avec l'action non violente, essayent de mettre en accusation ces multinationales du pétrole, comme vous l'avez vu quand ils ont envahi un colloque pétrole à Pau sur les forages au Groenland. Bravo à eux, à John Palais, des Amis de la Terre. Donc je suis adhérent aussi aux Amis de la Terre, ainsi que mon association, et ils ont mené un boulot d'enfer. Mais il y a aussi des bagarres où ils vont devant les excavateurs géants en Allemagne pour dire stop énergie fossile, on n'a plus que 3 ou 4 ans avant l'emballement climatique généralisé, donc il faut arrêter la production fossile. Donc voilà, je disais démondialiser, ça veut dire que on n'est pas dans un capitalisme national xénophobe, agressif et poussant en avant ses propres multinationales comme le patron des multinationales américaines Trump qui veut faire plaisir à ses industriels de l'acier, de l'aluminium, etc., de la bagnole, tout en faisant plaisir à ses travailleurs qui étaient licenciés de ces industries par la concurrence interne, la libre concurrence non faussée internationale. On voit bien qu'il faut démondialiser, c'est-à-dire sortir de ce libre-échange, sa concurrence, cette mise en concurrence des travailleurs, ces fuites de capitaux, ce chômage massif. Bref, rupture avec le capitalisme mondialisé. Ensuite, peut-être que pour limiter l'impact sur la planète, il faut arrêter avec les énergies fossiles beaucoup plus rapidement que prévu, bien sûr, aussi avec le nucléaire qui est une menace permanente, surtout en France, pays très peuplé, et de très vieilles centrales. Donc quelque chose qui ressemblerait à la décroissance des industries polluantes et des industries carbonées. Donc décroissance de ces industries, c'est-à-dire qu'il faudra apprendre à se priver de plastique, d'une partie des plastiques, pas le plastique médical, pas ce plastique dur et durable, pas le plastique fait avec du maïs, et encore qu'il faudrait pas non plus faire du carburant ou du plastique avec du maïs seulement, hein. Et puis développer une sorte de protectionnisme universaliste, c'est-à-dire un protectionnisme qui aille vers la coopération internationale conformément à la charte de la Havane de 1947. C'est-à-dire, on coopère un max, par exemple la France coopère avec beaucoup l'Italie, avec la Grèce, elle essaye de la sortir de la mer tout en... voilà. Bon, ça veut dire qu'on change, on fait un grand changement politique en France, c'est sûr. Mais on peut faire aussi des changements locaux de politique au municipal 2020. Tout se tient. Si on apprend à gérer la démocratie locale, on apprend à gérer la démocratie nationale. Et si on se bagarre bien, on apprend à gérer aussi la démocratie à l'échelle mondiale. Donc je reviens après ces catastrophes Trump, dénonciation de l'accord de Paris sur le climat, dénonciation de l'accord pour dénucléariser l'Iran, dénonciation de la loi Carr d'Obama qui donnait à une vingtaine de millions d'Américains la possibilité de se soigner un peu moins cher que de mettre 10 et 50 000 euros de côté en cas de cancer. Dénonciation donc du libre marché, sauf celui qui profite aux États-Unis, à l'United Steel ou à la banque Morgan. Bref, voilà. Eh bien, une alternative est intéressante que j'aimerais vous faire parvenir par la radio, c'est la bataille à l'ONU autour des multinationales. Depuis quelques années, une bataille cruciale au sein de l'Organisation des Nations Unies. Je sais, c'est pas parfait, mais c'est au moins là que tous les peuples ont leurs représentants et qu'il pourrait y avoir une démocratisation et une certaine mise en loi de ce bordel organisé par le capitalisme concurrentiel et multinational dans le cadre de la globalisation. Donc, une bataille au sujet des multinationales. Ces films dont la richesse pour certaines dépasse le produit intérieur brut de pas mal d'États sont devenues des actrices majeures de cette économie mondialisée. Et elles sont critiquées par ces ONG dont je viens de vous parler et des syndicats pour leur atteinte au peuple et à l'environnement. Mais Par exemple, bon, on connaît les agissements, par exemple, d'Areva au Niger ou de du Crédit Agricole au Niger, de Bolloré, notre ami Bolloré au Cameroun, Chevron Texaco en Équateur, Michelin en Inde, enfin bref. Sans parler des conditions de travail en Asie, dont le drame le plus significatif, vous avez tous été épouvantés par ces ouvrières qui travaillaient dans les 8 étages du Raza Plaza, vous souvient-il, et au Bangladesh, et qui en 2013, malgré que tout le monde ait prévenu que le truc était fissuré, qu'il y avait des bruits sourds, qu'il fallait arrêter la production, bah, les capitalistes et les donneurs d'ordre capitalistes, notamment français, notamment Auchan, notamment des banques, ont dit non, continuez la production, c'est là où sont fabriqués tous les vêtements et sous-vêtements. Eh bien, le bâtiment, qui n'était ni aux normes de sécurité, ni correct, s'est effondré, faisant 1100 morts ouvrières broyées. D'ailleurs, on n'a jamais pu extraire les corps. Il flotte encore une certaine odeur dans ce lieu qu'on a planté. Et faisant 3000 handicapés. Ah, épouvantable. Eh bien, ça, c'était nos multinationales donneuses d'ordre qui voulaient que les vêtements soient pas chers. Et donc, le Bangladesh, c'est là où pour les tissus, c'est le moins cher. Hein, la confection, c'est le moins cher. Salvatore Allende, en 72, disait à l'ONU « Les États ne sont plus maîtres de leurs décisions fondamentales à cause des multinationales qui ne dépendent d'aucun État. » Alors Allende, je vous rappelle, a été assassiné sur ordre de la CIA par Pinochet. C'est un chef d'État élu démocratiquement et remplacé par un fascisme pur et dur. Et ce fascisme pur et dur, excusez-moi, c'est un fascisme capitaliste puisque l'école de Chicago... et les économistes qui ont fait ce fameux libre marché globalisé ont fait leur première expérience de privatisation, libéralisation des services publics au Chili. Ça a créé un tel choc à la population, ce coup d'État, le bombardement de la moneda, l'assassinat du président et la mise en place de la dictature, 30 000 torturés, disparus, enfin, c'est épouvantable ce qui s'est passé. C'est un fascisme, hein, comme en Grèce, comme au Brésil, comme en Argentine, hein. Eh bien, ça a tellement sidéré la population qu'ils ont pu privatiser des écoles, des hôpitaux, des systèmes publics. Voilà ce qui s'est passé. La première expérience de privatisation à grande échelle, c'est le coup d'État fasciste du 11 septembre 1973 au Chili. Et c'était commandité par la CIA pour le plus grand profit des multinationales américaines qui voyaient s'envoler leur marché au Chili. Donc faisons très attention quand nous allons, nous, essayer en France de reprendre pouvoir sur nos richesses.
Tout est marché, c'est un big fine thing.
Une année, swing assez.
Tout est marché, c'est un big fine thing. Tout est marché, can shake that thing.
Une année, swing assez.
Tout est marché, can shake that thing.
Une année, swing assez.
Finest girl you'll ever know, done something against the law. She took my power right from my mind. I'm gonna knock on the door. Swing for me on a Mardi Gras day.
Une année, swing assez.
Swing for me on a Mardi Gras day. She sure is fine.
Une année, swing assez.
Tout est marché, she sure is fine.
Une année, swing assez.
Tout est marché, went out the ramp, looking for some cat to vamp. Police took her right in jail. I will get her out on bail. Police took her right in jail. I will get her out on bail. Tutima, she's a big fine thing.
Un
night, swing, I say.
To Tima, she's a big fine thing.
Good night, swing, I say.
To Tima, she can shake that thing.
Good night, swing, I say.
To Tima, she can shake that thing.
Good night, swing, I say.
To Tima, she's a big fine thing. She's a big, fine thing.
Depuis les années 70, beaucoup d'associations essayent de réglementer l'action des multinationales, mais c'est vraiment le combat de Goliath contre d'une petite petite association contre une grande multinationale. Alors, sous le gouvernement progressif de Rafael Correa, en 2014, il y a eu proposé un projet de traité contraignant envers les multinationales. C'est Rafael Correa qui a tenté de lancer un projet de traité. Et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a créé cette année-là un groupe de négociation a ouvert à tous les États. Ce groupe a une portée historique parce que c'est la première fois qu'un tel groupe est mis en place à l'ONU. Porté par de nombreuses ONG d'Amérique du Sud ainsi que par des pays comme l'Équateur, l'Afrique du Sud et la France, le traité en préparation peut réglementer l'action des multinationales et leur imposer des sanctions concrètes en cas de manquement aux droits de l'homme ou en cas d'atteinte à l'environnement ou aux droits des peuples. C'est assez extraordinaire pour être noté. Ce traité, une fois élaboré par le groupe, sera voté par l'Assemblée générale de l'ONU. La France est en pointe dans ce projet car elle a adopté en 2017 une loi sur le devoir de vigilance des multinationales, loi portée par une coalition de gauche. Donc, ce traité, s'il est voté par l'Assemblée générale des Nations unies, sera signé, on l'espère, par l'Union européenne, ça c'est pas sûr du tout. Les États-Unis et la Chine et la Russie s'y sont opposés et font tout pour le saboter. Donc ça éclaire le socialisme chinois d'un regard très cru. En fait, la Chine est aussi communiste que je suis évêque, je l'ai déjà dit, et la Russie, même si elle a repris du pouvoir d'État sur ses richesses, ces richesses sont largement aux mains de ses propres multinationales qui n'ont aucune envie de voir une instance internationale, même démocratique, réguler leurs mauvaises actions dans l'Arctique. Une véritable bataille se mène à l'ONU, donc au sujet de ce traité. Et vent debout contre ce traité, non seulement ces multinationales chinoises, russes et américaines, mais aussi l'Organisation internationale des employeurs, OIE, qui regroupe notamment le MEDEF français et toutes les organisations patronales du monde. Là, on voit bien que c'est une lutte de classe à l'échelle mondiale pour protéger le climat et protéger les travailleurs des multinationales. C'est-à-dire qu'il y a un poids croissant aussi des grandes entreprises qui, à l'ONU, font donc du lobbying. Les firmes multinationales s'efforcent donc de bloquer ce processus. Comme alternative à ce projet, elles proposent plutôt des principes directeurs de l'ONU, du type ce que dit beaucoup Macron, c'est-à-dire qu'on fait un effort de conviction que tout le monde doit être un peu moral, un peu sympa, et qu'on ne doit pas trop exploiter son prochain. C'est la doctrine sociale de l'Église qui dit que le patron doit respecter son travailleur, ne pas trop l'exploiter, et le travailleur doit obéissance et doit respect, et doit respecter son patron. Avec ses principes moraux, on voit ce que ça a donné, puisque la morale n'a jamais été contraignante, et chacun l'applique comme il l'entend, au mieux de ses intérêts. Donc, les firmes voudraient un traité non contraignant, et là, les autres se bagarrent. Si on arrivait à des systèmes contraignants avec des amendes gravissimes ou des interdictions, on aurait fait un pas en avant pour la régulation du marché mondial, comme au temps où l'ONU fixait le prix du café à un prix rémunérateur pour les producteurs. Ce projet en cours d'élaboration est un pas en avant historique. J'ai grand plaisir à souligner auprès de vous, ça vient de sortir, car enfin les multinationales seront redevables, non pas devant l'Organisation mondiale du commerce ou le G20 ou le G7, la Banque mondiale ou le FMI, ce sont toutes des organisations de banquiers et de multinationales, FMI, OMC, Organisation mondiale du commerce, ça n'a en rien été voté par les peuples, ça ne dépend pas de l'ONU, c'est uniquement les capitalistes qui se mettent d'accord entre eux avec des armées d'avocats pour savoir dans quelles meilleures conditions on fait circuler les marchandises. Donc ce projet, lui, c'est un projet qui aboutirait comme une première mondiale, que les multinationales seraient redevables devant cette loi internationale des peuples avec un risque de sanctions concrètes et graves. Donc, on espère bien que l'Union européenne veuille bien et financer et signer, mais pour l'instant, elle est quoi l'Europe des capitalistes ? Eh bien, elle a voulu enlever le financement de ce groupe de travail. Hein, c'est des centaines de personnes. Ah ben, c'est sympa, l'Europe. On voit que l'Europe est vraiment l'Europe des capitalistes. Hein. Donc, on fera peut-être une émission sur l'histoire de l'Europe. Comme vous l'avez vu sur Arte, il y a eu des émissions sur l'histoire de l'Europe. Juste un petit détail, cherchez bien Histoire de l'Europe, Arte, regardez les films. 1943, c'est la CIA qui dit on ne peut pas contrôler les Italiens dont le Parti communiste a 35% des voix, les Français étaient à 27%. On risque la révolution dans ces deux pays, plus quelques autres qui bougent. Il vaudrait mieux qu'il y ait une entité collective qu'on puisse contrôler plutôt qu'essayer de contrôler 27 États. Bravo, bien réussi. C'était bien ça l'idée européenne, d'avoir une seule entité supranationale qui contrôle les peuples elle-même, cette entité supranationale, et que les États-Unis contrôlent cette entité suprême contrôlant les peuples. Vous comprenez le truc. C'est plus facile de chasser une entité supranationale comme l'Europe, d'y chasser tout risque de changement, en gravant dans le marbre le libéralisme, la libre marché, la concurrence des travailleurs, etc. Hein, comme les travailleurs détachés, hein, qui sont 5 millions maintenant en Europe, 500, 600, 700 000 en France, hein, qui travaillent aux conditions de leur pays d'origine, donc qui mettent gravement en cause l'emploi dans notre pays. Eh bien, cette Europe capitaliste-là, elle a bel et bien été pensée par la CIA en 1943. Fermons la parenthèse. Elle est actuellement à la manœuvre pour essayer d'empêcher que cette commission de l'ONU soit financée. Bravo l'Europe. Je parle de l'Europe, bien sûr, des commissaires qui ont tout le pouvoir. Hein. Le Parlement européen, c'est un peu des rigolos bien sympas, qui sont élus, mais qui n'ont pas pouvoir de décision. Ils ont pouvoir de proposition. Ils votent, mais une des propositions, c'est quand même la Commission et surtout les chefs d'État réunis en Conseil qui prennent les décisions. Voilà pourquoi je ne suis pas bien content quand mes amis sont présentés comme députés. J'aurais dit, tu vas servir à quoi ? À part gagner une petite fortune, puisqu'on a 16 000 et quelques euros d'indemnité, on paye deux salariés et le reste, on se le met dans la poche. Hein, ceux qui seraient intéressés, j'ai un document de 20 pages d'une députée européenne anglaise qui a expliqué comment avait gagné 900 000 euros en étant élue européenne. Entre l'indemnité de repas 50 euros, les déplacements en avion, les indemnités diverses, l'indemnité européenne, l'indemnité machin, elle me dit, mais moi j'ai pu économiser une fortune en bouffant des sandwichs ou des petits plats, des petites salades au lieu des repas prévus et j'étais indemnisé. Voilà comment ça marche aujourd'hui avec les élus. On les achète un peu aussi par des indemnités si confortables que ce sont non seulement ceux qui veulent le pouvoir, mais aussi ceux qui veulent de l'argent, qui deviennent députés plutôt que des gens honnêtes de base, comme il y avait enfant dans nos vallées de Chartreuse ou d'ailleurs, où c'était des braves gens qui devenaient élus pour rendre service à leurs concitoyens gratuitement. Sauf on payait leur essence de bagnole, hein, ou voilà, ou un peu de foin à leur âne à l'époque. Et aujourd'hui, c'est un maire comme Valence, c'est 3900 euros. Adjoint à Valence, c'est 1900 euros. Valence ou Chambéry, hein, c'est les mêmes villes, hein, 64 000 habitants. C'est intéressant. Hein, j'avais une copine qui, à Valence, me dit, voilà, je suis instit, je suis retraité, j'ai 2200 euros, c'est pas assez pour moi pour la retraite. Plus son mari, hein. Alors, elle est devenue maire adjointe, hein, vert, bien sûr, et 1900 euros de plus. Hein, je lui dis, c'est bien, hein, 1900, 2400 plus 1900, hein, ça te fait 3300, 4000. C'est déjà bien, tu peux refaire ta cuisine, t'acheter une prime. Elle m'a dit, non, mais en plus, je suis vice-président de la communauté de communes. Encore 1200 euros, vice-président de la communauté de communes. Donc, vous voyez, comment on peut s'enrichir en étant élu, puisqu'on a des indemnités à la communauté de communes, on a des indemnités maire ou maire adjoint ou au conseil municipal. Alors, évidemment pas dans les petits conseils comme ici, hein. Mais maires, c'est pas inintéressant, et donc il y a plein de maires qui partagent leur indemnité avec leurs élus, il y a plein de solutions, et puis comme à Saillant, où il y a, je répète, 14 commissions de 10, 15 personnes, 20 personnes, 300 qui discutent de leur PLU. Et il n'y a toujours pas de grande surface, et donc la ville est vivante, on n'est pas comme à Pont-de-Beauvoisin, où les élus ont vendu les territoires autour pour faire 10-2 grandes surfaces. Et maintenant, Pont-de-Beauvoisin-Isère, Pont-de-Beauvoisin-Savoie, c'est des zones mortes. Mortes. Mais qui les a tuées ? Les grandes surfaces. Qui a installé les grandes surfaces ? Les élus. Combien les grandes surfaces ont-elles donné aux élus ? 300 000 euros. Eh bien voilà. Et combien doivent-elles à l'État ? 400 milliards. Eh bien c'est ça le système.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.